Alors, l'origine de la vie vue par un géologue, et puis on fera un peu de chimie, un peu d'astronomie, un peu de biologie, on fera un peu de tout. Pas trop. Donc, la méthode reine pour un géologue pour voir l'origine de la vie, c'est l'étude des fossiles. Alors, vous savez tout ce que c'est qu'un fossile, vous vous promenez au bord de la mer, hein, voilà, photo suivante. Vous regardez en détail la falaise que je viens de vous montrer, là, vous avez mon couteau qui donne l'échelle, vous le verrez de temps en temps. Et vous voyez dans la falaise un certain nombre de coquilles, ce sont des fossiles. Alors, les fossiles sont connus depuis belle lurette. Les hommes, ou plutôt les femmes préhistoriques, faisaient commerce de trilobites pour faire des bijoux, parce qu'on a trouvé dans des sites préhistoriques des trilobites, un endroit où il n'y en avait absolument pas. Donc c'était un trilobite qui avait fait au moins 300-400 km. Donc il y avait un commerce de trilobites, il y avait des start-up qui vendaient des trilobites. Et il y a eu tout un débat historique sur ce que c'est que les fossiles, et c'est vers Léonard de Vinci, Bernard de Palissy, ou la Renaissance, que les gens se sont dit que les fossiles, c'était des restes d'organismes vivants. Et ça m'est posé plein de questions, avant le déluge, après le déluge. C'était délicat. Il a fallu attendre grosso modo Buffon et le 19e siècle pour que les fossiles soient admis comme des objets naturels. Alors les fossiles, photo suivante, on peut fossiliser un peu tout et n'importe quoi. Je vous ai mis en vrac quelques fossiles pour montrer la variété de ce qu'on peut trouver. On peut trouver des arbres fossiles, aussi des troncs fossiles. C'est très beau. Si vous voulez trouver la même chose, bon, outre qu'il y en a un sur le bord, dans une colonne à côté de mon bureau, qui vient d'Auvergne, je suis un peu auvergnat et un peu chauvin. Les plus beaux qu'on trouve en France viennent du Morvan, dans la région d'Autun. On peut trouver des champs où il y a des morceaux, peut-être pas de cette taille-là, mais au moins de cette taille-là. Photo suivante. Alors, à côté des troncs fossiles, on peut évidemment trouver des feuilles fossiles. Voici une feuille fossile. Photo suivante. On peut trouver des tas de bêtes fossiles. On peut trouver des dinosaures fossiles. Voici un dinosaure fossile. Alors cette photo a quand même l'extraordinaire avantage d'être prise dans mon salon. Vous voyez le papier peint de mon salon, en fait. J'ai 4 dinosaures chez moi. Alors voilà, photo. Alors, évidemment, j'habite un petit appartement, donc c'est dinosaures nains. On trouve de tout comme fossiles, des poissons, par exemple, aussi un poisson fossile. Et j'ai choisi cette photo parce qu'à côté de ce poisson fossile, vous voyez ici des espèces d'arborescence. On pourrait penser que ce sont des brindilles fossiles. Ça, pas du tout, ce sont des concrétions d'oxyde de manganèse, tout à fait minérales. Alors, c'est avec des photos comme ça que des témoins de Jéhovah de mauvaise foi et imbéciles, ce qui fait beaucoup de pléonasme, disent que les fossiles, c'est des artefacts de la nature, voire même c'est des œuvres du diable créées par le diable pour enduire l'humanité en erreur. Ils disent, voyez, si ça, c'est des structures minérales, pourquoi ceci ne serait pas une structure minérale? Bon, ne parlons plus des infirmes, photo suivante. Voici une photo de fossile que j'aime bien qui montre que si c'est des concrétions dues à la nature, c'est quand même une concrétion qui ressemble fichtrement à une crevette. Et un biologiste, il verrait des antennes, il verrait des pattes. Sur les pattes, il verrait des poils. Sur les poils, il verrait des sous-poils. Ça serait peut-être même fractal. Donc, on trouve beaucoup d'organismes fossiles et c'est à l'aide de ces choses-là que les géologues racontent l'histoire de la vie. Photo suivante. Alors, on peut trouver des fossiles de plus petite taille. Ça, c'est un fossile de coccolithe, c'est un coccolithophoridé, dont la taille, c'est 10 microns, ça dure à peu près la taille d'un globule rouge, ce qui montre qu'avec des yeux perçants, microscope électronique en l'occurrence, on peut trouver des fossiles de très petite taille, et qu'on sera, il y a 3 ou 4 milliards d'années, où on n'a que des fossiles comme ça, le microscope sera quand même très utile. Photo suivante. On peut photographier des organismes qu'on a vus, on peut également photographier des scènes de la vie de tous les jours. Alors j'ai choisi 3 scènes de la vie de tous les jours. Ça, c'est pas un fossile, c'est sur mon couteau, c'est une plage actuelle où il y a des vers marins qui vivent dans la vase et qui, de temps en temps, qui sortent pour chier un coup. Et vous avez les tortillons de vers, donc bretons, actuels. La photo suivante vous montre une merde jurassique prise dans un musée. Je trouve qu'elle est très belle. Ce qui montre que cet acte de la vie de tous les jours, que tout le monde fait, se faisait déjà au Jurassique. Photo suivante. Ça, c'est un fossile qui vient d'exactement du même musée, que j'ai trouvé extraordinaire. Là, c'est la mort fossilisée. Vous avez une bête qui est ici, vous avez quand même un fossile, c'est toujours la mort. Mais là, on voit la façon dont la bête est morte. C'est un espèce de cloporte de mer qu'on appelle une limule, qui marchait à l'époque au Jurassique, vivait dans la vase. Elle est arrivée par là, on voit ses traces dans la vase, maintenant devenue pierre, évidemment. Et puis, il y a eu les affres de l'agonie. Notre limule a tourné en rond et est venue mourir ici. Et
Alors, photo suivante, c'est moi qui l'allume. Alors, où est-ce que le bouton? Ça, c'est toujours le test. Alors, ce qui est bien, là, c'est que j'ai pas besoin d'éteindre, comme le projecteur de diapo est très peu puissant, on n'a pas besoin d'éteindre. Autre scène de la vie de tous les jours, toujours du Jurassique. Là, c'est un accouchement. Alors, qu'a dû ce mal se terminer, parce que la mère et l'enfant sont morts. Mais vous voyez un ichthyosaure, qui est en train de mettre bas son petit ichthyosaure. Il s'est fait coincer quelque part. Il est mal sorti, et probablement que la mère a dû mourir d'une infection généralisée. Donc, un argument pour les gens qui sont anti-avortement. Dès le Jurassique, Dieu les punissait. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut fossiliser un peu tout et n'importe quoi. Et avec ça, les géologues, en regardant dans le temps toute cette histoire, sont arrivés à placer tous les êtres vivants fossiles les uns par rapport aux autres dans le temps. Alors, les biologistes font des choses aussi, eux, forcément, avec les êtres vivants actuels, par définition. Alors, les biologistes du 19e siècle, qui n'avaient accès qu'à l'anatomie, voyaient par exemple qu'un cheval ou un homme n'était pas sans certaines similitudes anatomiques. Et donc, les similitudes entre deux êtres vivants permettent d'établir du cousinage. Si vous ressemblez à votre frère ou à votre cousin, on peut supposer que vous avez des ancêtres communs. Alors ça, c'est au 19e siècle. Les biologistes ne faisaient que ça, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Alors maintenant, les biologistes modernes ont d'autres moyens d'action. Par exemple, ça, c'est des séquences d'ADN dans une mitochondrie de bébête ou d'homme. Et les biologistes modernes ne font plus que ça aussi, parce que regarder les bêtes entières, c'est plus à la mode. Mais enfin, on arrive à voir des similitudes. Si vous regardez la séquence de lettres là-haut, entre l'homme et le chimpanzé, vous voyez des similitudes flagrantes. Là encore, si ça se ressemble, c'est que c'est des cousins proches. Donc, les biologistes et les géologues, à l'aide de ce genre de données, sont arrivés à faire un arbre généalogique. Alors, on peut en présenter 36 façons. Je vous en montre un. Je tiens à ce vieux gribouillis, parce que je le modifie au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles données. Donc, il a déjà une dizaine d'années, ce transparent. Donc là, vous avez le temps ici. On est aujourd'hui, il y a 4,5 milliards d'années, quand la Terre est née. L'échelle du temps est tout à fait linéaire. Ça, c'est les grands groupes d'êtres vivants qui vivent aujourd'hui. Alors, évidemment, j'ai mis les grands groupes, j'ai pas mis toutes les espèces. Par exemple, dans le groupe arthropode ici, j'aurais pu séparer les insectes, les crustacés, les trilobites. Dans les insectes, les coléoptères, les machins, les trucs. Dans les coléoptères, j'aurais même pu séparer 30 000 espèces de charançons, puisqu'il y a 30 000 espèces de charançons. J'ai simplement mis arthropodes. Alors nous, on est dans le groupe des chordées, ici, quelque part par là. Alors là, vous avez les plantes à fleurs, là, vous avez les fougères. Enfin, tous les groupes d'êtres vivants qui existent aujourd'hui. Et à l'aide des parentés biologiques, des fossiles et tout ça, on est arrivé à faire un arbre généalogique qui n'est pas sans poser des tas de problèmes intéressants, mais ce n'est pas notre problème du jour. Et cet arbre généalogique, moi j'appelle souvent ça le pin parasol de l'évolution, parce que si on le met tout droit, ça fait un grand tronc, avec un bouquet tout à fait en haut. L'origine de la vie, d'après donc les fossiles, ça se situe par là-bas, hein, entre 3 et 4 milliards d'années, alors que des choses aussi vieilles et célèbres que les dinosaures, ça se situe que par là. Hein. Donc nous, on va se regarder ce qui se passe par là. Et d'après les fossiles, on va le justifier, ce qu'on trouve dans ces époques lointaines, ce ne sont que ce que les biologistes appellent des prokaryotes et les concierges des microbes. Comment quoi ? Ben parce qu'elles sont dans des roches que je peux dater de 4 milliards d'années. Alors comment je date une roche de 4 milliards d'années ? Alors si c'est une roche qui contient des fossiles, on ne peut pas la dater directement, parce qu'on ne peut dater directement, pour simplifier, que les roches qui ont été chaudes et qui sont refroidies. Or, une bactérie, elle se dépose dans une boue qui n'a jamais été chaude. Mais imagine que tu trouves qu'il y a une coulée de lave qui coule dans la mer. Elle était chaude, tu peux la dater par radioactivité. De la boue se dépose dessus. Tu ne peux pas la dater. Et une coulée de lave nouvelle coule par-dessus de l'ancienne boue. Tu peux dater la coulée de lave du haut, la coulée de lave du bas. Et les roches, la boue, maintenant devenue roche où il y a les bactéries, a un âge compris entre les deux. Alors, par exemple, les plus vieux fossiles, je vous montrerai tout à l'heure, sont compris entre 3,5 et 3,5 milliards d'années. Donc c'est l'âge des deux coulées qui sont au-dessus et au-dessous. Alors 3,5, grosso modo, plus ou moins, on va dire 10 millions d'années, 3,5 plus ou moins 10 millions d'années, et bien la bactérie aura forcément 3,5 plus ou moins 10 millions d'années entre les deux. Voilà à peu près comment on date. Si tu n'es pas convaincu, il y a Francis Albaret qui se fera une joie de te faire des cours complexes lettres. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe à ces époques-là, donc vers 3 à 4 milliards d'années, la Terre ayant 4,5 milliards d'années, mais ça, tu dois le savoir, puisque tu es astronome. En passant, je vous rappelle que l'atmosphère de la Terre n'avait pas d'oxygène jusqu'à il y a à peu près 2 milliards d'années, et que le dioxygène libre, qui est à la teneur de 21% aujourd'hui, n'est apparu dans l'atmosphère que depuis 2 milliards d'années. Donc la vie, disons, a passé la moitié de son temps sans oxygène. Alors là également, ça choque beaucoup les concierges, que la vie n'ait pas besoin d'oxygène, mais enfin, tous les gens qui connaissent la bière savent que la levure de bière, être vivant et sympathique s'il en est, vit très bien sans oxygène, que le microbe du tétanos, non seulement vit très bien sans oxygène, mais est tué par l'oxygène, c'est pour ça qu'on se désinfecte les plaies, à l'oxygéner. Donc, sans oxygène, c'est pas gênant pour la vie. Donc, alors on va aller voir à quoi ressemblent ces êtres vivants d'il y a 3 à 4 milliards d'années. Alors le problème, c'est que ce sont des bactéries. Alors des bactéries, c'est pas facile à voir quand on se promène. Et trouver des fossiles de bactéries, si on tape au hasard, on a peu de chance. Heureusement, il y a beaucoup de bactéries qui ont la bonne idée de vivre en colonie. Alors une colonie de bactéries, c'est déjà plus gros, les biologistes aiment ça, c'est les taches sur les boîtes de pétri. Et souvent, certaines de ces colonies de bactéries modifient très légèrement leur environnement, par exemple abaissent ou élèvent le pH. Si elles élèvent le pH, le milieu plus basique, ça fait précipiter des calcaires. Et là, on trouve les calcaires qui ont englobé les bactéries à l'origine de ça. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais devoir vous montrer des bactéries qui font ce que je viens de vous décrire aujourd'hui. C'est facile à voir, il n'y a qu'à se promener. Et on verra que des constructions bactériennes actuelles, on en connaît vraiment identiques jusqu'à 3,5 milliards d'années. Donc, il ne faut pas croire que tout évolue. Il y a ce qu'on appelle des fossiles vivants, des choses qui n'ont pas évolué. Alors, photo suivante. Alors, on va aller voir toutes ces bactéries fossiles en Australie. Alors, ça, c'est pour dire qu'on va en Australie. Photo suivante. Alors, voilà ces encroûtements de bactéries fossiles. C'est un lac, quelque part dans le milieu de l'Australie, un lac salé. On est en plein été. Le lac est très bas. Donc, on voit ces espèces de grosses boules. Ce sont des colonies de bactéries qui ont déposé des calcaires. Ça s'appelle des stromatolites. Si je reviens, alors ça c'est moi qui ai pris la photo, si j'étais revenu 6 mois plus tard pendant l'hiver, photo suivante, le lac serait beaucoup plus haut et j'aurais pu, sous l'eau, prendre ce genre de photo. Oh là, il y a 2 mètres d'eau, c'est pas très profond, on voit le fond de l'eau avec du sable et on voit ces espèces de grosses boules qui sont des colonies de bactéries. Ce sont des bactéries qui font la photosynthèse, tout le monde sait ce que c'est que la photosynthèse, j'espère, et comme elles font la photosynthèse, elles absorbent le gaz carbonique. Comme elles absorbent le gaz carbonique, ça diminue l'acidité dans leur environnement et le carbonate de calcium peut précipiter à cause de cette augmentation du pH. Et donc, couche, micro-couche après micro-couche, ça vous fait ces boules-là qui ont quelques centimètres à quelques mètres de diamètre. Alors ça, c'est actuel. Quand on pose la main là-dessus, c'est tout gluant et tout gélatineux. Mais ça se fossilise très bien. Photo suivante. Voici donc de stromatolites fossiles. Alors celles-là ne sont pas très vieilles, mais elles sont auvergnates. Elles sont à 500 mètres du château de Giscard d'Estaing, à Chanona. J'y amène mes agrégatifs la semaine prochaine. Et quand on arrive là, je leur dis toujours, je vous présente les boules de Giscard. En général, ils rigolent. Je vous en ai amené une. Vous pourrez toucher les boules de Giscard. Photo suivante. Quand on coupe les boules de Giscard, toujours mon couteau, on voit la structure interne de ces concrétions. C'est des couches les unes sur les autres. On peut dire que chaque couche correspond à une saison favorable pour la vie des bactéries, par exemple un hiver où elles sont dans l'eau, si c'est un lac comme celui d'Australie. Donc ça, c'est des stromatolites pas vieilles, mais on peut en trouver des très vieilles. Et les plus vieilles qu'on trouve, photo suivante, les voilà, ont 3,5 milliards d'années. Et ce qui est extraordinaire dans ce caillou-là, c'est qu'associé à cette concrétion bactérienne, il y a un silex ici. Un silex, c'est un gel de silice qui s'est fait. Et un gel de silice qui se fait, ça se fait dans la nature, un peu comme ça se fait en TP de chimie. Le gel prend en masse et peut fossiliser des êtres aussi délicats et sensibles que des bactéries. Et si on fait des lames minces, lame mince pour un géologue, c'est couper la roche en tranches de 30 microns d'épaisseur, et qu'on regarde dans ce silex, photo suivante, on voit des bactéries fossiles. Donc voici la plus vieille photo, enfin la photo de la plus vieille bactérie fossile connue sur Terre, qui est donc compris entre deux coulées d'âge 3,5 et 3,5 milliards d'années. Donc il y a à peu près 3,5 milliards d'années. Alors, que sont ces bactéries, disent les biologistes? Ils ne savent pas faire grand-chose face à ça, parce que les biologistes caractérisent les bactéries par des méthodes de coloration, les grammes plus, les grammes moins, par les séquençages et tout ça. Avec ça, ce n'est pas facile de faire des séquençages ou des colorations. Alors, Ils peuvent étudier la taille, le diamètre, le rapport entre la longueur et l'épaisseur et tout ça, et faire des diagrammes. Alors, je vous montre un diagramme fait par les biologistes et les géologues en association. Là, vous avez le diamètre de la cellule, la fréquence en pourcentage des petites bêtes trouvées. Alors, en jaune, c'est les bactéries classiques modernes, le contenu, votre contenu intestinal, donc une répartition dont le diamètre est vraiment centré autour de 1 micron. Il existe des bactéries que je qualifierais géantes, qui existent aussi de nos jours, qui ont un nom latin biologique, aussi Lactothérium, il y en a 423 groupes modernes de ces bactéries vivantes, et la répartition en taille de ces groupes-là, c'est la répartition verte. Eh bien, dans mes silex de 3 milliards et demi d'années, qui est un gisement qui se trouve en Australie aussi d'ailleurs, les gens ont compté la répartition en fréquence par rapport au diamètre des cellules, et c'est la courbe bleue que vous voyez ici. Ils ont réussi à trouver 11 groupes différents. Alors, quand on regarde les bactéries standards, les bactéries tout à fait atypiques que sont celles-là et les bactéries australiennes, on se dit que nos bactéries australiennes de 3 milliards et demi ressemblent beaucoup à nos bactéries de la courbe verte. Alors, les bactéries de la courbe verte s'appellent cyanobactéries, c'est un groupe très connu. Or, les cyanobactéries actuelles sont de loin les principales bactéries qui font les stromatolites. Donc, c'est concrétion choufleuresque. Or, notre bactérie-là a été trouvée juste à côté d'un choufleur. Donc, on a vraiment envie de dire qu'il y avait des cyanobactéries ou assimilées il y a 3 milliards et demi d'années. Alors ça, c'est capital pour le problème de l'origine de la vie. Parce qu'il y a une chose que peuvent faire les biologistes, absolument pas les géologues, c'est comparer tous les êtres vivants actuels. Alors tous les noms que vous avez là sont des êtres vivants actuels. Alors ça va des choses aussi compliquées que les animaux. C'est vraiment un grand groupe. Vous avez les animaux, les champignons, les plantes. Vous voyez, c'est une classification sommaire. Les biologistes, en regardant l'ADN et toutes ces choses-là, coupent le monde vivant actuel en trois grandes catégories. Ce qu'ils appellent les eucaryotes, grosso modo, c'est les cellules avec des noyaux, comme nous. Tout ça, c'est ce que les concierges appellent les microbes. Et dans les microbes, il y a deux grandes catégories, ce qu'on appelle les eubactéries et ce qu'on appelle les archébactéries. On ne va pas rentrer dans le détail. Les cyanobactéries, elles sont là, dans ce groupe-là. Or, c'est un groupe qui est très évolué. À partir de l'ancêtre primitif supposé de toutes les cellules, qu'on appelle LUCA, Last Universal Cellular Ancestor, les biologistes nous disent que pour passer de LUCA à une cyanobactérie, il faut une évolution déjà fort complexe. Parce qu'une cyanobactérie, c'est une bactérie hyper évoluée. Alors dans cet arbre généalogique sommaire, c'est un parmi d'autres, parce qu'ils ne sont pas tous tout à fait d'accord. Mais ce qu'ils sont d'accord, c'est qu'il faut beaucoup de divergences, beaucoup de séparations entre LUCA et la cyanobactérie. Dans cet arbre-là, il en faut 5. Ça veut dire que cette bactérie, déjà très évoluée, ce n'est pas un machin primitif. Elle a déjà, avant elle, toute une longue histoire. Ça veut dire que, comme ça existait à 3,5 milliards d'années, toute cette longue histoire s'est faite avant 3,5 milliards d'années. Donc, ça reporte l'origine de la vie à des périodes reculées. Alors, photo suivante. Alors, où aller plus vieux ? On ne connaît pas de roches sédimentaires, c'est-à-dire de roches qui sont déposées dans l'eau, des choses comme ça, plus vieilles que 3 milliards et demi d'années et qui n'aient pas subi des avatars terribles. Par contre, on en connaît des plus vieilles qui ont 3,8 à 3,9 milliards d'années, on va dire 3,85 pour simplifier, qui sont encore des roches sédimentaires, c'est-à-dire c'est encore de la vieille boue, des vieux dépôts. Le problème, c'est qu'ils ont été chauffés de 400 à 500 degrés. C'est-à-dire que les fossiles ont été complètement cuits, si fossiles il y avait, et qu'on ne les voit plus. Alors ces vieilles roches qui ont 3,8 milliards d'années, où est-ce qu'on les trouve ? On les trouve au Groenland, donc aussi pour montrer qu'on va aller au Groenland, photo suivante. Photo suivante. Et quand on se promène au Groenland, donc il y a des fois de la neige, on trouve des roches qui ont été cuites, mais par endroits pas trop déformés, et on retrouve dans ces roches d'anciens galets, vous voyez ? Et si on regarde de plus, un carnet de géologue, très important, photo suivante, si on regarde de plus près, sur mon couteau, vous voyez que cette roche, c'est une ancienne plage de galets, ce qui veut dire qu'il y a 3,8 milliards d'années, la mer roulait ses galets le long de golfs, plus ou moins clairs, mais on avait des galets. Donc c'est une roche sédimentaire marine, comme on trouvait sur une plage d'Étretat ou autre, et c'est dans ces roches sédimentaires
marine, cuite, certes, qu'on est arrivé à trouver des indices de vie. Et je vais vous dire quels indices on a pu trouver. Vous connaissez tous, je l'espère, le processus de la photosynthèse. La photosynthèse, ça se passe dans les chloroplastes ou dans les bactéries en entier. Alors là, c'est un schéma que j'ai pris, je ne sais plus où, d'un chloroplaste. Il y a une molécule extraordinaire que j'ai mis en vert, qu'on appelle la chlorophylle. Les chimistes apprécieront la structure de la molécule. Et quand cette molécule reçoit un photon, il se passe des choses abominables qui font la joie des biologistes. Toutes ces flèches correspondent à des tas de réactions chimiques. Par exemple, là, il y a une réaction chimique en boucle. Je n'ai pas pu résister de photocopier cette boucle avec toutes les formules que ça représente. Voilà ce que c'est que une boucle parmi tout ce que je vous ai montré. Le résultat pour un géologue, c'est quoi tout ça? Voici donc ma bactérie photosynthétique. Le résultat, il y a deux conséquences géologiquement observables de tout ça. C'est que tout ça, il y a de l'eau qui rentre dans la bactérie, H2O, et il en sort de l'oxygène O2. Et ça, l'oxygène O2 qui sort, n'oubliez pas qu'il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère à cette époque-là, donc le milieu était réducteur. S'il y a de l'oxygène qui sort autour de la bactérie, il doit y avoir localement un micro-environnement réducteur, oxydant. Or, dans mes plages de galets et tout ça, on trouve, j'en ai amené ici, vous pourrez voir, des roches avec de l'oxyde ferrique, Fe3+. Et qui dit Fe3+, dit milieu oxydant. Donc, c'est sympathique quand on trouve un milieu oxydant dans une atmosphère qui n'en avait pas. C'est qu'il y a un processus qui dégage de l'oxygène, enfin du dioxygène, et la photosynthèse est un de ces processus. Ce qui est beaucoup plus troublant, c'est la chose suivante. Dans ma bactérie, il y a du CO2 qui rentre, la moulinette dont on a parlé tout à l'heure, et il sort de la matière organique. Ici, c'est marqué fructose, glucose, enfin des sucres en l'occurrence. Eh bien, toutes ces réactions très compliquées que je vous ai indiquées, à chaque fois qu'il y a une réaction, le carbone 12 va un petit peu plus vite et un petit peu mieux que le carbone 13. Il y a une séparation isotopique pour cause de problèmes de cinétique, de problèmes de masse, d'énergie d'activation. Là encore, des bio, je ne sais pas quoi, pourront vous expliquer ça très bien. Dans le CO2 actuel, le rapport entre le carbone 12 et le carbone 13, c'est 0,00380. Eh bien, dans le sucre que vous mangez, donc si à la sortie, le rapport carbone 12 sur carbone 13, c'est 0,00368. Les géologues ont une unité barbare pour figurer ce fractionnement isotopique, ils appellent ça les unités delta. Eh bien, vous avez 30 unités delta de fractionnement. La photosynthèse enrichit la matière organique de 30 unités delta en carbone 12. Alors, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si on va dans la nature ancienne, alors on va par exemple aller dans nos stromatolites australiennes qu'on a déjà vues. Dans nos stromatolites australiennes, on est sûr qu'il y avait de la vie, on a trouvé les bactéries, on a trouvé la stromatolite. Puisqu'il y a stromatolite, c'est qu'il y avait de la photosynthèse. On est donc sûr du résultat. Et ça tombe bien, on a de la matière organique, on a des calcaires qui sont équivalents au CO2. Ça, c'est la valeur isotopique des carbonates. Ça, c'est la valeur isotopique de la matière organique. Et vous voyez donc une séparation de 30 unités delta. Donc, on confirme qu'il y avait de la photosynthèse en Australie. Surtout, on confirme la validité de la méthode. Alors maintenant, on va au Groenland, où on n'a plus de fossiles, puisque tout a été cuit, mais cuit n'a jamais modifié les isotopes. Eh bien, on trouve de la matière organique dans ces sédiments. Je vous ai amené ici un sédiment noir. Alors, la matière organique, c'est plus du graphite, maintenant, du carbone. Mais si on mesure l'écart isotopique entre ce carbone réduit et les carbonates qui traînent dans les environs, voici les carbonates qui traînent au Groenland, et voici la tranche isotopique où se trouve la matière organique du Groenland. Et voici, avec la flèche marron, le fractionnement de la photosynthèse la plus classique aujourd'hui, la photosynthèse en C3. Donc, quand on voit ça, milieu oxydant qui signe un dégagement d'oxygène, enrichissement de 30 unités delta en carbone 12, identique à ce que fait la photosynthèse aussi, on a vraiment envie de dire il y avait de la photosynthèse dans ces époques reculées. Alors, il y a un an, dans des sédiments, des roches de cette époque-là, de cet endroit-là, absolument non déformées, tout aussi cuites mais non déformées, ils ont réussi à trouver dans les strates qu'ils arrivaient bien à voir des petits globules de graphite. Chaque globule, et les globules étaient liés à une couche. Il y avait une couche avec beaucoup de globules, puis plein de couches sans globules, puis une couche avec beaucoup de globules. Et chaque globule faisait à peu près 1 à 2 microns de diamètre.
c'est tout à fait le diamètre d'une cellule bactérienne. Alors je ne peux pas vous affirmer que ces petits globules de graphite sont des fossiles, mais ils semblent vraiment liés à une couche, comme si à un moment on avait une pluie de plancton qui s'était déposée, et puis qui avait été cuit ultérieurement. Donc voilà ce que dit la géologie ancienne. Je peux résumer, la vie ancienne sur Terre. Les plus vieux fossiles en Australie datent de 3,5 milliards d'années. Cyanobactéries, c'est déjà des êtres très évolués. Au Groenland, les plus vieilles traces de vie, c'est des traces chimiques. Mais ça révèle ou ça suggère fortement que la photosynthèse, qui est un mécanisme complexe, existait déjà à cette époque. Donc c'est que la vie est née avant, c'est 3,85 milliards d'années. Alors je ne peux pas vous dire quand, on va dire 4, peut-être avant. Mais c'est une très vieille histoire. Alors, comme les biologistes, hein, je ne fais pas de la philosophie à la mort moelle-neuve, c'est une vie normale, avec du carbone, qui se divise, qui mange, etc. Vraiment la vie au sens normal du terme. Tu es vivant, un platane est vivant, un chou de bronchial est vivant, une bactérie est vivante.
Tu définis là comme étant quelque chose qui est capable de produire du carbone.
En l'occurrence, c'est quelque chose capable de séparer les isotopes du carbone et de dégager de l'oxygène. Hein. Voilà mon test. Mais enfin, en général, c'est pas comme ça qu'on définit la vie. Mais moi, c'est mon test observationnel, quelque chose qui a séparé les isotopes du carbone de 30 unités delta. Voilà. Alors là, c'est pas toute la vie, c'est la photosynthèse. Toi, en mangeant, t'es incapable de séparer les isotopes du carbone. Tu manges du beefsteak avec une certaine valeur, eh ben, tu as la même valeur et t'excrètes et tu respires sans séparer. Donc, il va falloir chercher l'origine de la vie avant ces 3,85 milliards d'années. Non, on fait pas la photosynthèse, on n'est pas vert, c'est tout. Alors le problème pour aller voir avant 3,85 milliards d'années, c'est qu'on n'a aucun caillou sédimentaire, on n'en a pas encore trouvé tout au moins, datant de ces époques reculées. Alors on n'a plus aucune donnée. On pourrait donc dire n'importe quoi. Ça c'est l'école à côté, là les philosophes. On est vraiment très ennuyé. Alors heureusement, on va chercher l'aide des astronomes. Alors, qu'est-ce que nous disent les astronomes ? Photo suivante. Les astronomes, un peu aidés par les géologues, expliquent comment s'est fabriquée la Terre. Au départ, la Terre, ça part d'un nuage de gaz de ce genre-là, qu'on appelle une nébuleuse. Alors là, je vous parachute le résultat. Photo suivante. Cette nébuleuse, l'un et une autre, se contracte en petits grumeaux. Alors, celle-là va se contracter en 5 ou 6 grumeaux. Ce qui va devenir un système solaire, c'est un de ces grumeaux-là. Photo suivante. Alors voilà, dans une autre nébuleuse, un de ces grumeaux qui est déjà bien séparé du reste. Alors autant les nébuleuses, c'est beaucoup plus grand que le système solaire, les dimensions se chiffrent en années-lumière. Les grumeaux ont une taille d'un ordre de grandeur identique à celui du système solaire. Ce grumeau-là, j'ai pas l'échelle, mais je crois que le suivant, j'ai l'échelle. Photo suivante. Alors ce grumeau qui ressemblait à un patatoïde qu'on a vu tout à l'heure se met à tourner sur lui-même de plus en plus vite. Il y a des phénomènes très complexes que Chabrier pourra vous expliquer. Toujours est-il qu'il prend la forme d'un disque qu'on voit ici par la tranche. Disque tout noir parce que plein de poussière, avec au cœur une étoile qui va naître et dont on voit ici la lueur infrarouge. Ça c'est une photo infrarouge. Là ce truc fait à peu près 10 fois la dimension du système solaire. Quand je dis que c'était le même ordre de grandeur, c'est un ordre de grandeur plus grand. Donc voilà ce que nous disent les astronomes sur comment s'est fait le système solaire. Le problème, c'est qu'avec le télescope actuel, on n'arrive pas bien à voir ce qui se passe là-dedans. Vous voyez déjà, on voit les pixels. Ça, c'est une photo du télescope spatial. Et on voit les pixels, on ne peut pas voir mieux. Alors, pour voir comment on est passé de ce disque de poussière tournant autour d'une pré-étoile au système solaire, c'est surtout les gens qui étudient les météorites et la surface de la Lune qui ont raconté le scénario. Ce que je vais vous montrer maintenant, avec des dessins d'artistes, photo suivante, qui montrent en image ce que l'on sait ou suppose de la formation du système solaire. On part de la même photo que tout à l'heure, si je puis dire, un disque de poussière avec une étoile en train de s'allumer qui rayonne dans l'infrarouge. C'est l'image d'artiste, exactement, la représentation de la photo qu'on vient de voir tout à l'heure. Eh bien, par des phénomènes bizarres, ces poussières, au lieu de rester poussiéreuses, s'agglomèrent en petits grains, les petits grains s'agglomèrent en cailloux, les cailloux en gros cailloux, les gros cailloux en petits blocs, les petits blocs en gros blocs. Photo suivante. Et en quelques millions d'années, ce qui est très rapide, on passe à quelque chose de ce genre-là, toujours notre futur soleil qui rayonne de plus en plus d'infrarouge parce qu'il se contracte et il chauffe, Et au lieu d'avoir des poussières, on a plein de blocs, disons de taille kilométrique. On ne sait pas trop comment on passe des poussières aux blocs, les astronomes n'arrivent pas, enfin disons, ils ont 36 théories, toutes aussi non satisfaisantes les unes que les autres. Par contre, ce qu'on sait à peu près bien, c'est comment les blocs qui sont là, des milliards de blocs, vont se rassembler pour faire des planètes. Ça, c'est un problème de balistique et de mécanique, je dirais, classique. Et quelques millions d'années plus tard, photo suivante, tous ces blocs, alors là, on voit les choses de plus loin, tous ces blocs que vous voyez là sont en train de se rassembler pour faire des planètes. Alors l'artiste ici en a dessiné une ici et une là. Et là, l'artiste a également dessiné le soleil qui s'allumait avec un vent stellaire, la phase stéthorique classique. Enfin, toujours est-il que les planètes, par exemple la future Terre, se fait par accrétion de tous ces blocs kilométriques qui tombent les uns sur les autres. Alors ça dégage de la chaleur d'accrétion, et votre Terre, votre planète, grossit, chauffée au rouge. Donc l'artiste a dessiné ici une couleur lave. C'est pas très bon, ça, pour que la vie naisse sur un machin qui est peut-être à 2000 degrés de température superficielle. Photo suivante. Alors, quand l'accrétion est finie, c'est-à-dire quand il ne reste, quand presque toutes les météorites se sont accrétées, la planète ne grossit plus, elle ne chauffe plus. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne grossit plus, elle ne chauffe plus, mais pendant à peu près 500 millions d'années, il tombe encore énormément de météorites sur la Terre que vous avez ici et la Lune. Alors là, l'artiste a dessiné deux météorites en train de tomber sur la Lune. Une petite et une grosse, photo suivante. Alors on connaît bien ce bombardement parce que sur la Lune, on voit d'innombrables cratères de météorites donc, qui datent de cette époque-là. Ils sont faits entre 4, 5 et 4 milliards d'années. Alors là, c'est des cratères qui sont de petite taille, photo suivante, mais les cratères peuvent être de très grosse taille. Voici la Lune. Et vous avez Marée Orientale qui fait quand même un cratère de 900 km de diamètre. Donc pendant 500 millions d'années, la nouvelle Terre, comme la nouvelle Lune, se trouve bombardée par des météorites. Il n'y a que des météorites partout, il n'y a aucun espace qui est épargné. Inutile de vous dire qu'une météorite comme ça tombe, c'est tout fondu sur tous les environs, et s'il y avait de la vie, ça stérilise complètement. Et on peut supposer que jusqu'à il y a 4 milliards d'années, toute tentative d'origine de la vie, a priori, moi je la verrais bien transformée assez rapidement en caramel, par ce bombardement météoritique. Photo suivante, et ce n'est que vers 4 milliards d'années que le bombardement météoritique ralentit, c'est toujours le dessin d'artiste, là, il y a encore une météorite qui tombe dans le petit coin là-haut, mais il n'en tombe presque plus, la surface peut bien refroidir, et l'artiste ici a dessiné donc une Terre pleine de cratères, comme la Lune, mais avec de l'eau dans les cratères, parce qu'on n'avait pas la Lune, et avec des petits nuages qui figurent l'atmosphère. Donc on a envie de dire que avant c'est pas possible que la vie se développe, naisse peut-être, mais immédiatement euthanasiée par les impacts de météorites. Et elle a raisonnablement pu se développer qu'à partir de cette époque-là, qui est vers 4 milliards d'années. Alors ça pose un problème majeur. C'est que si je mets bout à bout, quelle heure il est, ces deux données, la vie existait déjà il y a 3,85 milliards d'années. La Terre devait être invivable jusque vers moins 4 milliards d'années. Donc la vie a mis moins de 150 millions d'années pour apparaître, ce qui est extrêmement court, géologiquement parlant, évidemment. Et la conclusion provisoire, c'est que quand quelque chose se fait vite, eh bien que c'est facile à faire. Donc la vie, c'est quelque chose qui, parce qu'il s'est fait vite, est facile à faire. Alors vous pourrez me dire que comme c'est le seul exemple qu'on a, c'est pas très significatif. Si on prend l'exemple d'une loterie, si on gagne rapidement un gros lot, c'est qu'il y a beaucoup de gros lots, que c'est facile de gagner. Si c'est l'auto national, statistiquement, on n'a aucune chance de gagner le gros lot. Mais il y a bien quelqu'un qui le gagne toutes les semaines. Alors peut-être que si on pense que la Terre est exceptionnelle, c'est quelque chose de très difficile, a pu se faire pendant un temps extrêmement court. Mais ce n'est pas intellectuellement raisonnable, satisfaisant. Donc on a envie de dire que la vie s'est fait facilement. Donc c'est facile à faire. Photo suivante. Alors, on va encore changer de moyen d'observation. Voici une galaxie toute bête. Je ne sais pas laquelle c'est. Et si on analyse la composition chimique de cette galaxie par des méthodes spectrales, on obtient l'abondance des éléments dans l'univers. Alors là, c'est un diagramme extrêmement classique. Vous avez les numéros atomiques. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'arrête à 85. Ça devrait aller au moins jusqu'à 92. Et là, vous avez l'abondance. Alors, c'est en échelle logarithmique. C'est-à-dire qu'une graduation, c'est 10 fois moins. J'ai fait des fois des conférences pour des gens qui ne savaient pas ce que c'était que les logarithmes. Alors j'ai fait un petit texte pour expliquer ce que c'était que des logarithmes aux gens qui ne savent pas. C'est-à-dire que si on prend 1 milliard d'atomes pris tout à fait au hasard dans l'univers, il y a 900 millions d'atomes d'hydrogène, 92 millions d'atomes d'hélium, 6 millions d'atomes d'oxygène, 1 million d'atomes de carbone, 300 000 atomes d'azote, 300 000 atomes de néon, 100 000 atomes de magnésium, silicium et fer, et tous les autres éléments de la classification périodique, à eux tous, ne font que 100 000 atomes. Quand vous saurez que l'hélium et le néon, qui sont des gaz de l'extrême droite ici, sans aucune affinité chimique, donc qui ne réagissent pas, qui ne peuvent pas intervenir dans des processus chimiques, vous voyez donc que les quatre atomes réactifs les plus abondants, c'est hydrogène, oxygène, carbone et azote, et comme par hasard, ce sont les quatre atomes de base de la vie. Donc c'est ce que j'ai mis de façon un peu méchante pour les biologistes en dessous. La vie, c'est l'art, entre guillemets, d'utiliser les quatre atomes réactifs les plus abondants de l'univers. Donc ils n'ont pas de quoi être fiers, hein, c'est l'art d'utiliser le commun. Chimiquement, vis-à-vis des éléments, la vie est d'une banalité à pleurer. Un bête caillou, c'est beaucoup plus riche en atomes complètement exotiques que la vie. Donc, en particulier pour les amateurs de science-fiction, on fait toujours intervenir des vies au silicium, etc. Pourquoi ne pas faire naître une vie au silicium quelque part? Enfin, il faudrait être vicieux pour prendre du silicium qui est rare, alors que du carbone, il y en a 10 fois plus. Donc, que la vie soit au carbone, le carbone a des propriétés chimiques bien meilleures, quoique identiques au silicium, mais il est tellement... quoique identiques, le même genre, hein, c'est le tétravalent. C'est le même genre de propriétés chimiques, mais ça marche bien mieux. Et surtout, c'est beaucoup plus abondant. Donc, a priori, la vie a dû choisir le silicium, le carbone. Alors, photo suivante. Voilà, photo suivante. Alors, la Terre est née à partir d'une nébuleuse. Je vous avais montré des photos de nébuleuses. Je vous en montre une ici. Qu'est-ce qu'on trouve chimiquement dans une nébuleuse? Non pas vis-à-vis des atomes, qui sont tout à fait représentatifs de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais vis-à-vis des molécules. On peut analyser les molécules dans les nébuleuses pas trop lointaines, grâce aux vibrations des molécules qui émettent donc des ondes qui sont dans les longueurs d'onde centimétriques. Et donc, on peut trouver un certain nombre de molécules dans ces nébuleuses. Alors, voici un tableau. Le chiffre là-haut, c'est le nombre d'atomes par molécule. Les spectro-astronomes, les radio-astronomes arrivent à identifier des molécules jusqu'à 12, 13 atomes. Après, ils n'y arrivent pas. On n'est pas prêt de trouver le spectre du tryptophane ou de choses comme ça. Mais voilà les genres de molécules qu'on trouve. Alors évidemment, ce qui est hyper abondant, c'est l'hydrogène, c'est normal. Et puis il y a des tas d'autres molécules. J'en ai encadré quelques-unes, l'HCN, l'H2O, l'NH3, CH4. C'est des molécules essentiellement stables en milieu réducteur. Par exemple, le carbone, il est sous forme de CO et sous forme de CH4. Il n'est pas sous forme de CO2. Vu l'abondance d'hydrogène, ce n'est pas fondamentalement anormal. Et outre ces petites molécules, qui se font assez facilement, dans un mélange hydrogène, oxygène, etc., il y a des molécules plus complexes. J'en ai encadré deux. L'alcool éthylique, c'est en pensant aux pots de tout à l'heure. Et celle-là, qui a été trouvée en 1994, donc il y a 7 ans, qui est le plus simple des acides aminés, à savoir la glycine. Donc, il y a dans les nébuleuses, milieu à partir de laquelle on a pris naissance, plein de molécules, dont au moins une molécule biologiquement importante. Je ne peux pas vous dire s'il y en a d'autres, parce que d'autres, les radioastronomes, pour l'instant, sont aveugles. Ils ne peuvent pas savoir s'il y a des acides aminés plus complexes. Déjà, le suivant, il faut rajouter un CH3, ça fait déjà 14 atomes, ils auraient du mal à identifier les raies spectrales de tout ça. Bon, voilà. Alors ça, c'est absolument pas étonnant qu'il y ait des molécules complexes dans un environnement chimique fait d'ammoniac, d'hydrogène, de méthane et tout ça. Il y a une cinquantaine d'années que c'est connu. Un certain monsieur Miller, alors là c'est pas lui, c'est un de ses descendants, a fait des tas d'expériences. Alors là vous avez sur fond d'étoile, en plus c'est vachement beau avec la diapo. Si vous remettez dans un ballon un milieu un peu comme une nébuleuse, excès d'hydrogène, un soupçon d'ammoniac, de méthane, etc., vous apportez de l'énergie sous forme d'étincelles électriques, de photons ultraviolets, de rayons cosmiques. Alors, je ne sais pas s'il y a des étincelles électriques dans les nébuleuses, mais des rayons cosmiques et des photons ultraviolets, il y a tout ce qu'il faut. Eh bien, vous faites une organosynthèse complexe, en particulier des acides aminés. Alors, il y a 50 ans, ces choses-là ont été proposées pour la Terre, en disant que c'est comme ça que les acides aminés sont nés sur la Terre. Le seul problème, c'est que sur la Terre, il n'y a jamais eu d'atmosphère d'hydrogène. La vitesse, la gravité de la Terre et la température n'est pas du tout suffisante pour maintenir l'hydrogène. Et sur la Terre, le carbone est sous forme de CO2, et non pas sous forme de CO et de CH4. Donc ces expériences très intéressantes, faites il y a, en 52, l'année de ma naissance, vous voyez, ce n'est pas toute première fraîcheur, ne concernent pas la Terre. Par contre, elles expliquent très bien pourquoi on peut trouver des molécules complexes dans les nébuleuses qui, elles, ont une composition chimique à peu près semblable à ça. Donc, dans les nébuleuses, maintenant, il y a au moins un acide aminé. Mais est-ce que dans notre nébuleuse, à nous, il y a 4 milliards et demi d'années, est-ce qu'il y en avait ? Alors le problème, c'est qu'on, évidemment, la voit plus, notre nébuleuse à nous, et c'est pas facile d'en trouver des témoins. Heureusement, on a des fossiles de notre nébuleuse à nous. Photo suivante. Des fossiles de la partie lointaine de notre nébuleuse à nous, c'est ce qu'on appelle les comètes. Voici une comète. C'est un fossile, si je puis dire, de l'extérieur de notre nébuleuse. Et il y a une sonde, la sonde Giotto, qui a traversé la queue de la comète et qui a pu analyser les atomes constitutifs des poussières qu'on trouvait dans la queue de cette comète. Alors simplement les atomes, parce que la vitesse relative comète-sonde, c'était 70 km par seconde. Alors la sonde a sorti une petite plaquette d'argent. Les poussières arrivaient sur la plaquette d'argent à 70 km par seconde, étaient évidemment vaporisées par l'énergie cinétique, et la vapeur était captée par un spectre de masse qui en déduisait la combustion, mais élémentaire. S'il y avait des molécules, elles ont évidemment été détruites. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé comme élément dans ces poussières cométaires ? Il y a deux pôles. Il y a un pôle avec deux cailloux, du magnésium, du silicium, du calcium, bon ça c'est un silicate quelconque. Et il y a un deuxième pôle dont la composition élémentaire est faite de C, on a même pu distinguer les deux isotopes, H, O et N. Donc il y a des poussières, si c'est des poussières dans le vide à 200 degrés K, c'est que c'est des macromolécules, parce que dans le vide, une micromolécule, ça serait évaporé, ça serait pas une poussière solide, ça serait un gaz. Donc il y a des poussières solides, donc de macromolécules, CHON, qui s'échappe d'une comète. Qu'est-ce que c'est que c'est, moléculairement parlant ? On ne sait pas. Mais on aura bien envie de savoir. Photo suivante. Alors, on a également des témoins de notre nébuleuse interne. Alors, beaucoup plus facile à analyser, c'est ce qu'on appelle les météorites. Alors, vous avez ici une météorite qui est en train de tomber. Photo suivante. Vous avez ici, prise dans un musée, une météorite qui vient de tomber. C'est un des deux cas connus d'une météorite qui a fait des dégâts sur une voiture automobile, aux États-Unis bien entendu. Et maintenant, la voiture est dans un musée, donc vous voyez, machin. Photo suivante. Et donc la météorite, on peut la ramasser et l'analyser sous toutes les coutures. Et voici donc ce que c'est qu'une météorite, comme on peut l'analyser. Photo suivante qui doit être rien. Donc tu peux éteindre. Alors quand on analyse ces météorites, en particulier certaines d'entre elles, qu'on appelle les chondrites carbonées, on trouve plein de choses. Alors, dans une chondrite carbonée, vous avez jusqu'à 560 ppm de matière organique. Ppm, c'est parties par million, on va dire grammes par tonne. Ça veut dire une tonne de météorite, pas énorme, ça fait quand même 500 grammes de matière organique, c'est donc pas négligeable du tout. Et dans ces matières organiques, eh bien, on a des acides aminés, on a même des bases azotées, purines et pyrimidines, qui sont le nom savant de adénine, guanine, cytosine et thymine. Donc, alors, des bases azotées, il n'y en a pas beaucoup, hein, 1,3 g par tonne. Enfin, il y en a, des acides aminés, il y en a un peu plus, 60 g par tonne. Donc, il y a dans les météorites de ces molécules organiques complexes qui nous tombent dessus. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais est-ce que c'est sûr, ça ? Est-ce que ce n'est pas une théorie ?» etc. C'est une donnée observationnelle, analytique, qui date au temps de mesure près du 14 mai 1864. Le 14 mai 1864, une météorite qui est tombée dans le village d'Orgueil, Tarn-et-Garonne, a tombé de la nuit, ça fait du bruit, et le lendemain matin, tous les paysans sont sortis et ont ramassé des kilos et des kilos de cailloux. C'est la météorite d'Orgueil. Alors ils l'ont ramassée dans les champs. Et au mois de mai, dans un champ, ben, y a de l'herbe, il y a du fumier, etc. Ça a été ramassé par les paysans, ça a les mains sales, un paysan. Ça a été donné, suivant que vous étiez clérical ou anticlérical, au curé ou à l'instituteur. Et par la SNCF de l'époque, on est en train de faire les chemins de fer à l'époque, donc il y avait de la suie, vous imaginez ça. En 2-3 jours, ça a gagné le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et ça a été analysé avec les techniques de l'époque, et ils ont trouvé là-dedans matière organique. Alors il faut se mettre à l'époque, on est sous Napoléon III, matière organique, on est avant la synthèse de l'urée et de l'acétylène par Berthelot et je ne sais plus qui. Donc, matière carbonée, matière organique, ça voulait dire qu'on ne savait pas, de façon non vivante, faire ces molécules organique. Donc trouver de la molécule organique dans la météorite, ça voulait dire trouver de la vie. Toujours à la même époque, Pasteur est en train de démontrer que la génération spontanée n'existait pas. Avant, c'était facile, vous mettiez un fromage sur une table, 10 jours après, il y avait des asticots qui étaient nés spontanément. Et bien Pasteur a montré que les asticots n'étaient pas nés spontanément, que c'était une mouche qui était venue pondre. Donc, quand on disait vie, ça voulait dire qu'il y avait papa, maman, grand-père, grand-mère, etc. Donc, trouver de la molécule organique dans une météorite, ça voulait dire vie, mais vie qui n'est pas spontanément, vie avec toute une lignée derrière. Donc, ça voulait dire vie extraterrestre. Et ça, c'était pas possible pour l'époque. Imaginez une vie extraterrestre, on était quand même la France, la fille aînée de l'Église, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit les scientifiques ? Attitude éminemment fréquente et éminemment condamnable, quand une donnée gêne, on la balaye, on la met sous le tapis. Ils ont dit, c'est de la pollution. La météorite est tombée dans les champs, ce qui est vrai. Elle a été touchée sans aucune précaution, ce qui est vrai, par des paysans, puis des soutanes de curés ou des bouts instituteurs. Elle a pris le train à vapeur, elle est arrivée à Paris, etc. Et ce qu'on trouve, c'est de la pollution. Si on avait cherché un peu plus, toujours à la même époque, Pasteur était en train de démontrer que tous les composés biologiques, ou quasiment tous les composés biologiques, faisaient tourner le plan de polarisation de la lumière. Maintenant, on sait pourquoi, c'est parce que les réactions enzymatiques sont tellement spécifiques de l'architecture en trois dimensions des molécules, que par exemple les acides aminés, toute la vie choisit la forme gauche. Eh bien, on aurait analysé le pouvoir rotatoire de ces acides aminés, on aurait trouvé que ça ne faisait pas tourner le plan de polarisation de la lumière, c'était le racémique, parce qu'il y a autant de formes droites que de formes gauches. Ce qui montre que ce n'était pas du jus de curé ou du fumier, c'était quelque chose qui était fait de façon non enzymatique. À l'époque, on ne savait pas, avec des teneurs pareilles, analyser les différents acides aminés. La vie utilise 21 ou 22 acides aminés. Dans la météorite de Murchison, qui est une collègue de celle d'Orgueil, il y en a 74 différents. Donc au moins 74 moins 22 sont d'origine extraterrestre, enfin non biologique. Donc il y a très longtemps qu'on devrait savoir que des molécules organiques, il en tombe des stocks tout faits. Alors, d'où ils viennent ces stocks tout faits ? Exactement par la réaction chimique que je vous ai montrée tout à l'heure, dans un milieu hydrogène, méthane, ammoniac, des décharges électriques, ce qu'on appelle une expérience de décharge, ça fait des acides aminés. Alors là, c'est les acides aminés probablement classés par ordre de complexité. Ça fait des acides aminés. Ça, c'est l'abondance faite dans les expériences à décharge. Quand il y a beaucoup de points, c'est que c'est abondant, pas beaucoup de points, c'est rare. Et ça, c'est l'abondance de ces mêmes acides aminés dans la météorite de Murchison. La ressemblance est assez flagrante. C'est donc des acides aminés faits de façon tout à fait inorganique par des machins type expérience à décharge. Donc, il faut que je m'arrête parce que ça va être l'heure, j'ai plus que 3 minutes. Le problème, la matière organique présente dans les météorites qui ont constitué la Terre ont été détruites par l'accrétion. La Terre a été chauffée au rouge par l'accrétion. Donc il est tombé à ce moment-là, ça demande des milliards de tonnes de molécules organiques, mais elles ont été cuites. C'est pendant les 500 millions d'années post-accrétion, dans le bombardement catastrophique, qu'il a pu arriver de la matière organique. Mais le problème, c'est en quelle quantité ? Donc, une météorite, elle peut être grosse, moyenne ou petite. C'est évident. Même toute petite. Si la météorite est grosse, on va dire un diamètre supérieur à 100 mètres, l'atmosphère, qui est tellement ténue, ne la ralentit absolument pas. Vous avez votre bloc de 100 mètres de diamètre qui arrive à au moins 11 km par seconde, c'est la vitesse de libération sur Terre. Toute l'énergie est transformée en chaleur et votre météorite est complètement vaporisée. Si acide aminé il y a, on n'en parle plus. Donc, ce n'est pas les grosses météorites qui ont amené quoi que ce soit. Vous avez les mini-météorites, c'est l'ordre du millimètre. Alors ça, on les connaît très bien, c'est ce qui fait les étoiles filantes. Mais une mini-météorite est entièrement vaporisée par la traversée de l'atmosphère. Donc si elle contient de la matière organique, ce n'est pas elle non plus qui va être ensemencée la Terre, puisqu'elle est caramélisée. Il reste deux classes de météorites, les météorites de taille standard, moi je ne sais pas, comme celle-là, et puis les météorites vraiment de taille du micron. Alors les météorites de taille standard, donc de 10 mètres ou centimètres, elles sont suffisamment ralenties par l'atmosphère, et elles arrivent au sol avec la vitesse donnée par la loi de Stock, à peu près la vitesse d'un parachutiste dont le parachute ne s'est pas ouvert, c'est à peu près 300 km/h. Donc, à ce moment-là, le parachutiste ne cuit pas quand il arrive par terre. Donc, s'il y a des molécules, elles ne sont pas cuites. Alors, quand la météorite traverse l'atmosphère, L'extérieur est chauffé. On voit l'étoile filante. En fait, ce qu'on voit, ce n'est pas la météorite, c'est la trace de plasma qui est derrière, ce n'est pas grave. La surface est chauffée très fort. Le problème, c'est que les roches, en général, sont des isolants. Que chauffer très fort, ça vaporise la météorite. La vaporisation élimine énormément de chaleur. La vaporisation fait reculer la surface de la météorite. Et ça recule plus vite que la propagation de l'onde de chaleur dans la météorite. Si bien que, la surface soit chauffée au blanc, le cœur de la météorite n'est absolument pas chauffé. Alors, deux façons de voir ça. Dans des météorites, on trouve des minéraux comme des argiles. Si on trouve des argiles, c'est que ça n'a pas été cuit, sinon on trouvait de la brique. Et une autre meilleure façon, qui est beaucoup plus difficile à montrer, c'est que si un jour il y a une météorite qui tombe dans votre jardin, surtout si c'est la nuit, ne la ramassez pas comme ça. Parce que vous brûleriez de froid. Une météorite, donc la température de l'espace, c'est à peu près moins 20, moins 30. Si, donc au soleil il fait chaud, à l'ombre c'est la nuit, et il fait beaucoup plus froid. Si elle est tombée la nuit, il y a quelques moments qu'elle est franchement, à la fois, ou bien devant, derrière, à moins 150, moins 200 degrés. Donc une météorite qui tombe par terre est un bloc de cailloux ou de métal à moins 150 à 200 degrés. Et si vous la touchez, eh ben vous vous brûlez de froid. Donc prenez des gants si vous trouvez une météorite. Donc là, s'il y a de la matière organique, des acides aminés dans cette météorite, elle arrive intacte par terre. Il suffit qu'elle tombe dans l'eau et voilà. Et il reste les micrométéorites. Alors les toutes petites météorites, diamètre à peu près le micron, elles ne sont pas chauffées par la pénétration de l'atmosphère. Elles ont une énergie très faible, un demi de MV2 avec un M tout petit. Et elles ont une surface très grande, plutôt un rapport surface sur volume très grand. Donc elles ont peu d'énergie et leur surface leur permet d'évacuer très facilement leur énergie. Si bien qu'elles freinent doucement, en évacuant bien leur énergie, elles ne chauffent pas. Et elles arrivent par terre, alors toujours avec la vitesse de loi de Stokes, pour des particules de quelques microns, c'est-à-dire rien du tout. Et donc, il y a ces micrométéorites qui tombent gentiment et qui mettent peut-être un an ou deux pour traverser toute l'atmosphère. Alors, c'est très difficile à récupérer ces micrométéorites-là. On peut les récupérer soit en mettant une espèce de colle à la sortie de la navette spatiale. Elle fait 50 tours autour de la Terre et on récupère des petits machins collés à la colle. Soit en fondant des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes de glace antarctique, en se mettant à plus de 1000 km de la montagne la plus proche. On fait fondre tout ça, on trouve quelques milligrammes de poussière, on trie ce qui est terrestre, ce qui voit être terrestre, il y a 3 grains de pollen ou des choses comme ça, et puis il reste une espèce de machin, c'est justement ces mini ou ces micrométéorites. Alors dernière nouvelle, qui sont vraiment pas bien vieilles, c'est que ces micrométéorites sont très riches en matière organique. Pour simplifier, c'est de la suie. L'analyse est en train de se faire, le problème c'est qu'on en a quelques microgrammes pour l'instant. Mais alors, c'est très riche en matière organique, et si on fait des extrapolations, en donnant à toutes les météorites, toutes les micrométéorites, depuis 4 milliards et demi d'années, la même teneur en matière organique que maintenant, et en mettant toujours le même rapport de masse entre les micrométéorites et les grosses météorites, comme on connaît le nombre de grosses météorites qui est tombée dans le temps, on peut savoir la quantité de micrométéorites qui est tombée. Et en faisant ces extrapolations, on s'aperçoit que pendant les 500 premiers millions d'années de la Terre, il est tombé une masse de matière organique supérieure à l'ensemble de la biomasse actuelle. Donc ce n'est pas un problème de quantité, si on faisait extrapolation, il y avait de la matière. Donc, il faut que je conclue, j'aurai 2 minutes de retard, mais ça c'est les 2 minutes d'installation. Donc, qu'est-ce que je peux dire dans conclusion? C'est que les molécules prébiotiques, que d'aucuns appellent les briques élémentaires de la vie, existaient en abondance, donc ce n'est pas un problème. La vie est apparue très vite, en moins de 150 millions d'années. Alors maintenant, on attend que les biologistes nous disent comment. Avec une petite réflexion méchante, la nature a mis 150 millions d'années pour inventer la vie, les biologistes essayent depuis 150 ans sans y arriver, devrons-nous attendre 149 millions d'années que les biologistes nous disent comment ça s'est fait? Moi, j'aimerais bien qu'ils nous le disent, mais pour l'instant, ils se taisent. Voilà, je vous remercie.